les podcasts de Radio Vatican.
La communauté internationale tiendra-t-elle ses engagements climatiques ? Mission impossible ou presque, selon une étude de scientifiques basée aux États-Unis. Pour eux, il n'y a que 5% de chances de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, comme fixé par l'accord de Paris scellé en 2015. Ces chercheurs tablent plutôt sur une augmentation médiane de 3,2 degrés. Et encore, ce scénario n'est pas le pire, puisqu'il intègre des efforts pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, précise l'étude publiée lundi 31 juillet 2017. François-Marie Bréon, climatologue et directeur adjoint du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, n'est pas surpris et déplore le manque de volonté politique.
Ça ne me surprend pas du tout. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur des trajectoires à 1,5 ou 2 degrés. Il n'y a aucun État qui fait vraiment les efforts nécessaires pour y arriver. Ce n'est pas un État qui doit être blâmé plus qu'un autre, c'est tous les États qui sont à rechercher plus la croissance économique que vraiment une diminution des émissions de CO2. Je veux dire, bon, moi, ce que je connais bien, c'est la France. La France, on est toujours à dire, ce qu'il faut, c'est arriver à 2% de croissance. Et 2% de croissance, ça veut dire utiliser plus de combustibles. Donc, on peut essayer de diminuer nos émissions et de faire de la croissance en même temps. Mais il faut bien voir que c'est extrêmement difficile. Au premier ordre, quand on fait de la croissance, qu'on veut fabriquer plus de biens, partir plus en vacances à l'étranger et avoir des logements plus grands et avoir une population qui grandit, ça conduit à plus d'émissions. C'est ça le premier ordre. Ensuite, on peut faire des efforts pour essayer de contre-État, mais le premier ordre, il est bien celui-là. Donc moi, je suis absolument pas surpris par ce résultat.
Outre cette question de la croissance, que faudrait-il faire pour tenir nos engagements ? Quelle doit être la priorité selon vous ?
Si on est vraiment sérieux sur le fait de diminuer nos émissions, il faudrait sortir du charbon, ne plus utiliser de charbon le plus rapidement possible. Or, moi, je vois assez peu de pays qui se lancent là-dedans. On peut regarder, par exemple, en Europe, qu'est-ce qui se fait en Allemagne. L'Allemagne, qui est vraiment la plus grande puissance européenne, leur objectif, c'est de sortir du nucléaire. Leur objectif n'est pas de sortir du charbon. En Pologne, c'est la même chose. Ils ont aussi à utiliser énormément de charbon. Je veux dire, il n'y a aucun pays en Europe qui dit vraiment clairement, dès que possible, on va sortir du charbon. En France, on utilise assez peu de charbon par rapport à d'autres pays européens. Mais le peu qu'on utilise encore, on devrait pouvoir dire tout de suite, on va fermer les dernières centrales au charbon la semaine prochaine, on en a les moyens, il suffit de garder ouvert une centrale nucléaire. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. Et donc un certain nombre de pays pensent que c'est plus important de sortir du nucléaire que de sortir du charbon. Et à titre personnel, je pense le contraire. Donc on devrait mettre notre priorité sur le fait de sortir du charbon. Et puis une fois que ça sera fait, on pourra s'occuper d'essayer de sortir du nucléaire. Mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Je veux dire, il a des objectifs liés au climat, mais il a aussi des objectifs qui sont liés à l'emploi. Il a des objectifs qui sont liés à l'économie de la France, au bien-être des Français. Et malheureusement, ces différents objectifs sont difficiles à concilier.
À l'échelle plus globale, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient être mises en œuvre et qui devraient être mises en œuvre assez rapidement ?
Le truc, c'est que suivant les pays, c'est pas du tout les mêmes mesures qui peuvent être prises. Donc c'est vraiment compliqué de parler globalement. Quand on parle aux pays européens, le chauffage des habitations est un poste important des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vais vous dire, pour les pays typiquement d'Europe de l'Ouest, on va dire, c'est la priorité, ça devrait être de mieux isoler les logements, parce que le chauffage des logements, c'est quelque chose qui est important. Par contre, quand je vais parler à vos auditeurs qui sont dans les pays d'Afrique francophone, les émissions de gaz à effet de serre dans ces pays-là sont tellement faibles que je ne peux pas leur demander le moindre effort supplémentaire. Il n'y a pas une recette qui s'applique à tout le monde. Mais vraiment, le charbon, c'est essentiel. Le charbon, c'est pratiquement un tiers des émissions de CO2 dans le monde. Et c'est quelque chose où on voit qu'il y aurait potentiellement des solutions en développant d'une part les énergies renouvelables dans les pays où c'est bien adapté. Il y a des pays qui sont très ensoleillés, donc dans ces pays-là, on peut mettre des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques. Il y a des pays qui sont très ventés, et donc dans ces pays-là, peut-être que l'éolien il est bien adapté. Et puis il y a d'autres pays qui sont bien avancés technologiquement et qui ont un état stable, et dans ces pays-là, le nucléaire est bien adapté. Voilà, je ne veux surtout pas laisser croire qu'il y a une solution unique pour l'ensemble du monde.
Alors, même s'il n'y a pas une solution unique, l'accord de Paris ne manque-t-il pas cependant quand même d'objectifs intermédiaires clairs ?
L'accord de Paris, pour qu'il y ait un accord, on a laissé à chaque pays dire qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire. Donc il y a des pays qui ont affiché des efforts qui étaient vraiment extrêmement modestes par rapport aux objectifs. Hein. L'ambition affichée par la Russie, par exemple, était pratiquement nulle. Un certain nombre de pays ont dit « bon ben, nous, on va continuer à augmenter nos émissions, mais on va les augmenter moins que ce qu'on pourrait faire ». Alors pour certains pays, ça se justifie. Hein. Typiquement, les pays d'Afrique ont des émissions qui sont par habitant qui sont tellement faibles par rapport à celles des pays occidentaux que c'est complètement normal de les laisser se développer et d'émettre plus. Mais ça veut dire que dans le même temps, il faudrait que les pays occidentaux aient des objectifs qui soient encore plus ambitieux. Et donc voilà, il n'y a personne, aucun des pays ne veut être celui qui fait plus d'efforts que les autres. Et à la fin, on arrive à un total d'émissions qui ne permet pas de respecter le fameux objectif des 2 degrés. C'est-à-dire que si on additionne les émissions qui sont affichées par l'ensemble des pays, eh ben, on arrive à des totaux qui sont bien au-delà de ce qu'il faudrait pour rester dans les 2 degrés.
Qu'aurait-il fallu faire ?
Si on avait voulu arriver à quelque chose qui respecte les 2 degrés, on aurait dû partir dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire, bon, ben, tiens, pour respecter les 2 degrés, il faut que la planète, enfin l'ensemble des pays, ne dépasse pas telles émissions, et puis essayer de répartir ces émissions maximales dans chacun des pays pour dire, bon, ben, ok, toi, tu as droit à tant, toi, tu as droit à tant, toi, tu as droit à tant. Bon, mais c'est ce qui avait été essayé à Copenhague il y a une petite dizaine d'années et qui n'avait pas marché. Donc l'accord de Paris a essayé d'arriver à une solution un peu différente, qui a permis d'arriver à un accord, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, évidemment, ça arrive à un accord qui n'est pas ambitieux. Si on laisse chacun dire qu'est-ce qu'il a envie de faire, eh ben, à la fin, le résultat, il n'est pas très ambitieux. Quoi. Mais c'était peut-être le seul moyen pour arriver effectivement à un accord. Hein. Et cet accord, on peut espérer que ben, quand les pays vont se revoir tous les 5 ans, je crois que c'est ça qui est prévu, eh ben, ils vont dire, bon, ben, finalement, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus difficile. Enfin, si de l'ensemble des pays n'emboîtent pas le pas des États-Unis.
Justement, j'allais y venir. Le fait que les États-Unis aient annoncé leur retrait, qui n'est pas encore effectif, les diplomates disent qu'ils n'ont pas encore eu de notification officielle, mais au moins annoncé, c'est quand même un signal très négatif.
Ouais, oui, c'est un signal très négatif. Bon, les États-Unis, en fait, ils ont pas mal de gaz de schiste. Et donc, en fait, en ce moment, ils sont en train de remplacer le charbon par du gaz de schiste. Et pour la même énergie produite, ça permet d'émettre moins de CO2. Donc, en fait, de manière presque fortuite, les émissions des États-Unis sont en train de diminuer. Mais surtout, le signal est mauvais pour les autres. C'est-à-dire que il y a plein de pays, s'ils voient qu'ils vont avoir des difficultés à respecter l'objectif qu'ils avaient annoncé, ça sera beaucoup plus facile pour eux de dire, bon, bah, ok, finalement, nous non plus, on va pas respecter notre promesse. Mais vous savez, on a eu quand même, il y a une vingtaine d'années, un autre accord de ce type, hein, qui était l'accord de Kyoto, où, en gros, les pays industrialisés s'étaient engagés à faire soit diminuer ses émissions, soit ne pas les augmenter. Il y a un certain nombre de pays qui ont respecté ces objectifs-là, et puis il y a d'autres pays qui ne les ont pas du tout respectés. Bon, personne n'est venu leur reprocher. Hein. Donc, de toute façon, il faut bien voir que l'accord de Paris, les promesses faites par les différents pays ne sont pas vraiment contraignantes.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.